Bienvenue à l'émission, mesdames et messieurs. Tellement heureux de vous retrouver ce soir pour les amateurs de sport. J'espère que vous avez passé une très, très belle journée. On a un autre gros show pour vous ce soir. Johnny Manziel, malheureusement, a manqué l'entraînement des Alouettes pour une deuxième journée de suite. L'équipe médicale des Alouettes a placé Manziel sous le protocole des commotions cérébrales de la Ligue canadienne de football de façon préventive. On va voir plus de nouvelles à ce sujet dans quelques instants. L'entraîneur-chef Mike Sherman, lui, assure que tout a été fait selon le livre. Tout a été fait pour s'assurer que Manziel était correct pour poursuivre le match samedi dernier, après avoir été plaqué sévèrement à la ligne de but. On va en parler dans quelques instants avec Mathieu Proulx. Hier, à la suite de l'émission, hier, on a eu beaucoup de bons commentaires au sujet des entretiens que nous avons eus avec M. Charles Bronfman ainsi que Claude Raymond au sujet du 14 août 1968, date où M. Bronfman devenait officiellement un des propriétaires des Expos. Alors, je tenais à vous offrir une autre belle page de l'histoire des Expos. Monsieur Roger Deslandry sera avec nous à 19h04. Monsieur Landry était vice-président marketing et affaires publiques des Expos de Montréal de 1977 à 1980. Il avait comme mandat d'aider les Expos à déménager, à passer du parc Jarry au stade olympique et puis de vendre des billets et tout ça. Et vous savez aussi, Monsieur Landry est celui qui a le crédit d'avoir inventé, d'avoir créé Youpi. Alors, on va parler avec M. Landry. Ça va être bien le fun. Vous allez aimer l'entretien avec M. Roger Deslandry. Il sera question de tennis. Alors qu'à Cincinnati, Miloš Raonic a vaincu Malek Jaziri aujourd'hui 6-3 et 7-5 pour avancer à la ronde des 16 au tournoi de Cincinnati. Et demain, il sera en action. Il va affronter notre autre Canadien, Denis Shapovalov. On va terminer l'émission de ce soir avant de céder la place à Yannick Bouchard. Bonsoir les sportifs, avec un entretien avec un triathlonien de 73 ans qui participera au triathlon international de Montréal les 25 et 26 août prochains. C'est M. Yvon Robichaud. C'est un des participants les plus âgés du triathlon de Montréal et il nous parlera de cette passion, de ce mode de vie qu'il pratique depuis maintenant 2 ans, puis 2 ans seulement. Je pense que vous allez avoir envie de vous lever, d'aller courir ou faire du vélo ou d'aller dans la piscine. Un coup, vous allez entendre M. Robichaud. On avait hâte de voir la progression du corps arrière Johnny Manziel à son troisième départ face aux Eskimos à Edmonton samedi. Malheureusement pour Johnny Manziel et les Alouettes, l'équipe médicale des Alouettes a placé Manziel sous le protocole des commotions de la Ligue canadienne de football. Pour en parler, Mathieu Proulx est avec nous. Bonsoir Mathieu.
Salut Derek.
Hey Mathieu, on avait vu une progression quand même impressionnante dans le jeu de Manziel, dans le jeu des Alouettes. Il semblait avoir de l'espoir, un petit peu regain de confiance. Comment les joueurs aujourd'hui reçoivent cette nouvelle-là que le nouveau corps arrière est placé sous le protocole de la Ligue canadienne de football?
Comme une autre tuile qui leur tombe sur la tête, ce qui semble être le cas depuis des années déjà. Dans les situations, évidemment, il y a certaines blessures qui sont auto-infligées, comme des décisions personnelles, tout ça, mais les blessures, on peut pas contrôler ça. Puis ça, c'est vraiment une tuile qui tombe, qui fait très mal. Parce que, tu l'as dit, on avait vu une belle progression, pas juste avec Johnny Manziel, mais l'attaque au complet. On sentait je peux pas vraiment dire ça, qu'on tournait le coin, mais on commençait à avoir des signes positifs avant de tourner le coin pour avoir quelques matchs de suite consécutifs où on joue bien. Là. Mais c'était encourageant. C'était le fun de le voir. Il avait le contrôle, il était calme, on voyait toutes ses capacités athlétiques, donc tout ça. Alors, je pense que tout le monde avait hâte de voir ce qu'il allait faire. Tout le monde était excité de la performance qu'il a offerte. Et puis maintenant, ben là, on va devoir se replier sur Antonio Pipkin, qu'on pourrait peut-être parler dans un instant. Mais,
ouais.
Mais du côté de Johnny Manziel, c'est très décevant de voir qu'il ne sera pas en mesure de prendre part au prochain match. Puis toute cette gestion du protocole aussi, là, qui évidemment doit être mise en question.
Écoute, Mathieu, lorsque justement il y a une blessure dans une équipe, dans une situation d'équipe, bon ben ça donne toujours l'opportunité à quelqu'un d'autre de se lever puis de prendre des bouchées doubles ou de faire le travail ou d'avoir de la visibilité. Antonio Pipkin, bon ben c'est lui qui a pris le ballon, les répétitions comme premier quart. Parle-moi un peu de lui.
Ben, on connaît pas grand-chose de Pipkin. Pipkin, c'est un jeune carrière, 23 ans, a joué dans un petit programme universitaire, Tiffin, a été le partant pendant 3 ans là-bas. C'est un gars qui complète à peu près 65% de ses passes au niveau universitaire, 58 touchés contre 15 interceptions. C'est un ratio qui est intéressant. On veut toujours voir ça. Moi, j'aime voir des carrières qui complètent au moins 65% de leurs passes. Il est à peu près là. Il a passé, après sa carrière universitaire à Tiffin, il a eu la chance d'aller comme joueur non repêché avec les Cars d'Arizona. Il a été libéré peu après. Il a été mis sous contrat par les Alouettes. Il a passé l'année complète l'année passée avec les Alouettes sans jamais jouer. A été libéré après le premier match cette année. Et là, en raison des différentes blessures, notamment Drew Willey, Vernon Adams, tout ça, on l'a rapatrié le 6 août. On est le 15, ça fait 9 jours qu'il a été rapatrié par les Alouettes. Donc, connaît le système de jeu qu'il a vu au camp d'entraînement. Déjà une longueur d'avance sur n'importe qui arriverait d'ailleurs. Mais c'est une carrière qui, quand même, n'a pas été avec l'équipe pendant un bon mois ou deux. C'est pas une situation évidente. On l'a retranché, évidemment, c'est qu'on pensait pas nécessairement que c'est la solution pour le futur des Alouettes. C'est une solution très temporaire pour moi, Anthony Ovechkin, jusqu'à ce que Johnny Manziel puisse se remettre en forme. À la limite, comme tu dis, hein, tu sais, c'est peut-être Wally Pipp, hein, comme on dit. C'est un gars qui tombe, il y a quelqu'un d'autre qui a la chance de jouer, puis là, c'est la chance d'Anthony Ovechkin. On sait jamais, il peut offrir une bonne performance, puis on peut avoir quelque chose de ça, mais je pense que dans le cas actuel, c'est vraiment plus une situation temporaire en attendant le retour de Manziel.
Tu te présentes tes vétérans dans ce vestiaire-là, puis un vestiaire, on en parle que c'est un vestiaire qui a quand même une bonne chimie. Est-ce que dès demain matin, tu prends parole, tu rallies les troupes? Comment tu fais justement pour éviter que ce soit ce sentiment qui dégonfle les gars, que cette tuile qui leur tombe sur la tête? Comment t'approches ça comme vétéran?
Je pense que c'est le rôle de tout le monde dans le vestiaire. C'est le rôle de Coach Sherman de mettre son corps substitué en confiance. C'est son rôle de mettre le reste de l'équipe en confiance, de bien vendre son plan de match à l'ensemble de l'équipe. T'sais, en début de semaine, généralement, le coach va venir regarder cette semaine, voici les gars ce qu'on fait, voici qui on affronte, voici comment on pense qu'on va le faire. Tu essaies de rallier tes troupes autour de ça. Tu espères que tes receveurs vétérans, tes joueurs de ligne ou un gars comme Tyrell Sutton se lève et disait « Boys, on va le supporter, on va faire tout ce qu'on peut, on essaie de l'aider pendant la semaine. » Pour Pipkin, c'est un corps arrière. Il y a plus de position que tu peux rentrer puis tu peux te permettre d'être vocal puis parler tout de suite. Mais s'il y en a une, c'est bien celle de corps arrière. Tu dois être le leader. C'est toi qui parles. C'est toi qui touches le ballon à chaque jeu. Fait qu'Antonio Pipkin a une chance, lui, puis il n'a pas le choix, finalement, de s'établir également comme leader pour dire, regardez, les gars, je sais que pas la situation souhaitée, mais suivez-moi. Je vais faire tout ce que je peux. Puis, tu sais, vous pouvez avoir confiance en moi. On va avoir une bonne semaine de pratique. Puis, tu sais, vous êtes capable de me suivre. Fait que je pense que vraiment tout le monde a une responsabilité là-dedans. Mais c'est clair que tout le monde a vu sa ballonne dégonfler un peu. Mais avec les Alouettes, depuis quelques années, ça va tellement pas bien que c'est un peu ça à chaque semaine. Il faut se battre contre l'adversité continuellement. Donc, c'est pas une situation, malheureusement, là, qu'on n'est pas habitué de vivre.
Je
comprends. On est habitué d'être là-dedans. Fait que j'espère, j'ose espérer que c'est pas ça qui va les ralentir.
Mathieu Proulx, t'as vu le plaqué à la ligne des buts samedi. Johnny Manziel était visiblement ébranlé. On l'a suivi. La caméra l'a suivi sur le banc aussi. On a vu Coach Sherman lui parler. On a vu du personnel médical. On a vu quelques joueurs monter des serviettes pour un peu le cacher. Il y avait le massage derrière la nuque. Est-ce que t'étais surpris de le revoir, toi, prendre le ballon par la suite?
La première des choses que j'aimerais dire, tu sais, à la Ligue canadienne, on a commencé à faire ça dans la NCAA, dans la NFL, on a une tente derrière le vestiaire.
Ouais.
On essaie de cacher les caméras, enlever les joueurs. Mettez une tente. Puis okay. Si vous voulez pas que le monde regarde, si vous voulez pas que les caméras filment ce qui se passe, mettez une petite tente que quand un joueur, que ce soit une cheville, la tête ou peu importe, tu montes la tente, tu l'amènes là, tu l'évalues, puis t'as pas de caméra, puis tu sens. Il y a quelque chose là-dedans, moi, qui m'énerve. C'est pour être à la vue de tout le monde, on va le filmer, c'est normal. Je trouve ça curieux de t'en faire sur la serviette là en 2018. Bon, ça, c'est un aparté, peut-être pas rapport, là, mais
je comprends. T'as raison, on cache quelque chose. On veut cacher quelque chose, donc faites-le comme il faut.
Ben oui. Ben oui, exactement. Donc, mais pour ce qui est de retourner sur le terrain, oui, je suis surpris. Puis sais-tu quoi, je vais te le dire, Derek, ben franchement, là, j'ai eu une boule dans le ventre aujourd'hui quand j'ai vu que ce gars-là allait pas jouer en fin de semaine. Extrêmement préoccupé par cette situation des commotions, pas juste au football, mais dans l'ensemble des sports. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde qui travaille très, très fort pour régler ce problème-là, pour faire que la situation s'améliore, et ça encore dans tous les sports. Mais c'est loin d'être parfait dans tous les sports. Et une des choses qui se produit ici, puis je pense qu'il faut comprendre, c'est que, bon, nous, on l'a vu sur le terrain. On l'a vu à la caméra, on a vu, bon, ça avait l'air de frapper. C'était-tu concluant, pas concluant? On sait pas. Il a pas l'air bien, il a l'air en détresse. Et ça, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Est-ce que c'est un joueur qui est en détresse? Normalement, un observateur indépendant aurait pu le sortir du match, mais vu qu'il sortait déjà parce qu'ils ont inscrit un touché, on a dit, ben, l'équipe médicale maintenant en prend en charge. Alors, c'est l'équipe médicale, les Alouettes, finalement, qui revient cette décision-là. Et maintenant, ce qu'il faut balancer, peser dans cette décision-là, c'est qu'est-ce qui a préséance ou qu'est-ce qui a plus de poids? Est-ce que c'est ce qu'on a vu sur les dernières secondes du jeu où il est tombé au sol? Ou est-ce que c'est ce qu'on évalue sur le banc lorsqu'on fait des tests sommaires de mémoire et de reconnaissance cognitive? Quand il est arrivé sur le banc, on a commencé à poser des questions. On est quel jour? C'est quoi le match? C'était quoi le dernier jeu?
Oui.
Là, il était clairement en possession de ses moyens si on l'a laissé retourner. Je peux pas imaginer autrement. Je peux pas imaginer que les Alouettes l'avaient remis sur le jeu s'ils disaient qu'on était le 4 décembre puis qu'ils venaient de faire un but.
Je vais juste, je t'arrête, je vais te donner, ouais. Je vais te dire les questions, les cinq questions ouais. qu'on pose. Là, c'est quoi le nom du stade? Où sommes-nous aujourd'hui? Ouais. Quel demi? Qui a marqué le dernier point dans le match? Quelle équipe vous avez joué contre la semaine passée? Et est-ce que votre équipe a remporté le dernier match? Ça, c'est les premières questions qu'on pose. Ouais, ça s'appelle les Maddox Questions. Et ça, c'est sur le terrain. Là, c'est ce qu'on pose comme question.
Ben voilà. Donc là, on a ces questions-là qui sont posées. Puis il peut, à ce moment-là, bien répondre, malgré le fait qu'il y a peut-être une commotion cérébrale. Parce qu'on le sait, les effets de ça sont très variables avec le temps. Tu peux perdre connaissance, te relever, être correct, puis juste avoir des symptômes jusqu'à 24, 48, et on diagnostique même des fois jusqu'à 72 heures après le coup. Certaines personnes disent même qu'ils ont des symptômes une semaine après le coup.
Ouais.
Alors là, il arrive sur le banc, on a tous vu qu'il était ébranlé, il s'est sorti, c'était pas convaincant. Il arrive sur le banc, il pose des questions, il dit, ben là, il répond très bien aux questions. Il a l'air tout à fait lucide, il a l'air tout à fait bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a préséance? Est-ce que c'est les réponses qu'on a là? Ou est-ce qu'on dit, regarde, moi là, je lis l'extrait là, sur ma tablette, parce qu'on le reçoit le jeu, puis on le voit le gars sur le terrain. Il avait pas l'air bien. On va le sortir. Moi, si tu me demandes mon opinion personnelle, c'est tout ce que je peux faire, c'est donner mon opinion personnelle. Ce qu'on voit sur le terrain devrait avoir un gros poids dans ce qu'on prend comme décision. On devrait tout le temps errer du côté de la prudence et de la sécurité des joueurs, particulièrement parce qu'on ne sait pas encore beaucoup de choses sur les commotions, que de renvoyer un gars dans un match comme ça, sa santé pour moi est primordiale.
Ouais.
Et c'est là où j'ai un problème. Puis je sais même pas si je peux en vouloir à quelqu'un à qui jeter le blâme. Mais moi, quand je l'ai vu sur le terrain, comme beaucoup d'autres, je me suis dit, ben là, il peut pas revenir. Il a pas l'air bien.
Ouais.
Mais après ça, tu peux-tu blâmer l'équipe médicale qui a l'air tout à fait correct, qui est bien? Comment on se base? Peut-être que là, les critères de retour au jeu sont pas bien établis. Peut-être qu'il faut les faire un peu plus sévères. Puis peut-être qu'il faut s'asseoir comme association des joueurs et ligue, puis dire, ben voici maintenant, là, quand on considère qu'il y a une détresse momentanée d'une seconde ou deux sur le terrain, fini. Premier symptôme, premier signe, on le sort. Parce que visiblement, c'est pas ça qu'on fait actuellement, parce qu'on a laissé retourner sur le terrain. Donc, c'est un débat qui fait encore beaucoup parler, qui va évoluer avec le temps. Mais je pense que dans ce cas-ci, avec ce qu'on voit cette semaine, malgré qu'on parle de médicaments et d'effets secondaires de médicaments, je ne vais même pas m'embarquer dans ce que ça peut être. Il y a clairement, il est dans le protocole. Okay? Disons ça même, mais dans le protocole, je pense qu'on a des questions à se poser sur comment on a géré la situation.
On va parler après la prochaine pause, justement, docteur Dave Ellenberg, qui est neuropsychologue et spécialiste sur les commotions cérébrales dans le sport. On va peut-être essayer d'avoir plus de réponses à ce niveau-là. Mais toi, le protocole, tu connais quoi du protocole? Quand les gens entendent qu'il est placé sous le protocole de la Ligue canadienne de football, il y a des gens qui posent la question, OK, ça veut dire quoi? C'est-tu 24 heures? C'est-tu une semaine? C'est-tu un mois? Est-ce que t'es au courant, toi, du protocole puis la durée de chaque phase? Est-ce que tu le connais, le protocole, Mathieu?
Oui, bien moi, j'ai eu le plaisir de siéger sur le comité consultatif qui a été mis sur pied par le gouvernement après cette crise-là qui a éclaté à ESPN, puis subséquemment avec enquête ici au Québec sur une école secondaire des jeunes joueurs de foot. On a mis sur pied un comité ministériel. J'ai eu le plaisir de siéger sur ce comité-là pendant 2 ans, présidé par justement Dave Ellenberg,
okay.
Et plein d'autres mondes, du monde de la santé, l'éducation. Donc, je suis très au fait de tout ce qui se passe là-dedans. Je connais bien le protocole de la Ligue canadienne de football. Ça marche par heure, par tranche d'heure. Donc, c'est évidemment les premiers moments, le silence complet, tranquille. Après ça, on peut retourner aux capacités cognitives. On parle à peu près d'une durée d'une semaine. Pour moi, c'est impossible qu'il joue en fin de semaine. Si on enclenche le protocole, il peut pas jouer.
Oui, c'est ça.
Alors, si la question, c'est ça, il peut pas jouer là, on va attendre à la semaine prochaine pour le ramener sur le terrain. Le protocole peut pas aller aussi vite que ça et c'est normal. On veut que les étapes soient respectées.
Oui.
Puis entre chaque étape, il y a une durée de temps, normalement variant entre 24 et 48 heures pour différentes étapes, pour déterminer le retour éventuel ou la progression à la prochaine étape. Donc, Johnny Manziel, sous le protocole, ne jouera pas en fin de semaine, pourrait jouer la semaine suivante. Mais tu sais, c'est ça aussi la réalité. Si on les prend en charge comme il faut, si on sort un joueur, si on fait le protocole comme du monde, 80 à 90% des commotions se règlent à l'intérieur d'une semaine. Mais il faut le prendre comme il faut. Il ne faut pas les exposer, ces joueurs-là, ce qu'on a peut-être fait en fin de semaine.
OK. Ben, écoute, j'ai aimé ton idée de tente. Je vais poser la question à Dr. Non, mais parce que tu sais, dans la Ligue nationale de hockey, par exemple, là, on parle de cette chambre noire-là. On parle quelqu'un coucou comme ça et le spotter, comme Coach Sherman a mentionné, qui avait le dépisteur de la Ligue qui était là, que lui aussi est descendu pour s'assurer que tout était beau. Mais dans la Ligue nationale de hockey, Mathieu Proulx, on les place dans une chambre où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de lumière. On n'a pas fait ça dans le cas de Johnny Manziel, là.
Non, il y a trois étapes. Hein. Tu as le on-field assessment, fait que tu évalues sur le terrain ce qui se passe. Si tu déclares qu'il y a un problème, il y a une anomalie, tu l'amènes sur le côté pour un sideline assessment.
Okay.
Et là, s'il y a une anomalie, là, tu l'amènes dans le vestiaire pour faire ce qu'on appelle là aussi la chambre noire ou la chambre tranquille.
Ah, okay. Donc,
d'accord. La troisième étape, et l'évaluation qui a été faite sur les lignes de côté a déterminé qu'il n'y avait pas d'anomalie, donc on pouvait le retourner sur le terrain. Mais tu sais, encore une fois, j'aurais espéré que ce qu'on a vu sur les bandes vidéo, même s'il est très lucide au moment où il parle, aurait fait en sorte qu'on l'aurait amené dans la chambre noire pour ou dans le vestiaire pour d'évaluation future ou supplémentaire, là, ce qu'on n'a pas fait. Mais encore une fois, c'est clair que c'est pas un système parfait, mais je pense qu'il faut utiliser ces occasions-là pour faire l'auto-évaluation en tant qu'équipe médicale, comme ligue, comme joueur aussi, parce que Johnny Manziel, ça revient aussi à lui la responsabilité de dire je suis pas bien, j'ai perdu connaissance ou j'ai eu un blackout ou peu importe. C'est ça aussi qu'il faut.
Et l'athlète comme on le sait, il veut être là, il veut être sur le terrain.
Exact. C'est ça. On cultive la notion de guerrier, puis on valorise ça. Puis c'est parfait quand on parle d'une cheville puis d'un genou. Tu sais, je vais t'encourager à y aller si t'es prêt, c'est un gros match. Mais la tête, on peut pas niaiser avec ça. Peu importe le contexte, peu importe le sport, peu importe le niveau, peu importe l'importance du match. Alors, c'est là où les joueurs doivent changer leur approche, leur culture, leur façon de voir les choses. C'est la seule façon. Si les joueurs ensemble prennent une décision qu'on change ça, c'est comme ça que ça va changer pour l'avenir. Fait que la responsabilité vient un peu à tout le monde dans ce dossier-là, il n'y a pas de doute.
Mathieu Proulx, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps ce soir.
All right, salut.
Salut, David. Bien fait, bien dit. On va faire une pause et au retour, justement, à ce sujet, Dr. Dave Ellenberg, neuropsychologue, spécialiste sur les commotions cérébrales dans le sport. On va voir si tout a été bien fait. Et est-ce que c'est possible que ce soit les effets secondaires de médicaments? On vient après ces messages.